Chapitre 7. Où se cache le bien-aimé? Elle ne le trouve plus dans l'oraison, elle ne le trouve plus dans la communion. Elle apprend à le découvrir dans la personne même de ses supérieurs, celles qui la déçoivent, celles qui la tracassent, qui ne peuvent la décevoir et la tracasser qu'en son nom. Pourquoi eût-elle entré ici? Avant tout pour sauver les âmes. Il convient donc d'embrasser la souffrance, de l'aimer, de la rechercher, non simplement de la subir. Le Seigneur lui a fait entendre qu'on ne les peut sauver que par la croix, par les croix, petites et grandes. Plus Thérèse en rencontrera sur sa route, plus son attrait pour la souffrance augmentera. Telle est la révolution dont les signes avant-coureurs l'alertent depuis son enfance, qui va s'opérer dans son âme devant la sainte face de Jésus. Ce visage défait, sanglant, humilié, méconnaissable, réduit au pur néant, se substitue tout à coup à ses yeux au trait aimable de l'enfant divin. Il était le plus beau des enfants des hommes, le plus gracieux à la crèche, le plus viril à l'établi. En son adolescence et en son âge adulte, un seul de ses regards ravissait les cœurs. À travers son humanité naturellement accomplie, on pouvait entrevoir l'ineffable beauté de Dieu. La divinité s'est voilée, l'humanité s'est laissée détruire. Celui qui est a accepté, décidé, exigé de tomber à rien. Pour nous conquérir, pour nous posséder, pour régner sur nous sans conteste, dans des magnificences du commun salut. Quiconque voudra conquérir, posséder et régner devra se mettre à son école. L'avide, l'orgueilleuse, l'ambitieuse Thérèse, la petite fille qui choisissait tout, rien de moins que le tout, saura bientôt ce qui lui reste à faire, se cacher, s'annuler. La clé, la seule clé de la possession de l'être, c'est le non-être. Et comme celui qui n'est pas n'a plus rien à attendre, à espérer, à demander, Thérèse n'attendra, n'espérera et ne demandera plus rien, ou temporairement, le moins possible, avant d'avoir atteint à la perfection du néant. Elle travaillera à se rapetisser, ce sera sa seule pensée. Plus croîtra son ambition, sa volonté de possession, sa sainte fureur de conquête, et plus elle se fera petite. Le mot « petit » qu'elle va répéter sans cesse, l'appliquant à sa voix et à sa personne, ne devra pas être entendue comme une coquetterie, comme une mièvrerie, comme une naïveté de style, mais comme l'exacte expression du dessein le plus malaisé, le plus héroïque, le plus cruel, qu'une âme aussi vivante, aussi sensible, aussi passionnée ait jamais conçue et réalisée. Ne nous étonnons pas qu'après les lectures plus ou moins fades, contes moraux, homélies pieuses, l'imitation exceptée, dont ces jeunes âmes ont dû se nourrir, elle puise désormais dans les œuvres mystiques les plus fortes son aliment spirituel. Celles de Saint Jean de la Croix seront durant 2 ans à son chevet. Elle lira aussi Sainte Thérèse, mais semble-t-il avec moins de goût et de suite, partant avec moins de profit, la puissante raison de la grande mystique d'Avila ne convient pas à sa nature intuitive. Y a-t-il 7 demeures dans le château de l'âme, 4 degrés dans l'oraison? Cela lui importe fort peu, pourvu qu'elle y accède ou qu'elle y entre. La première Thérèse a su aimer Jésus. La seconde ne lui demande que le secret de cet amour. Ce secret, les lumières sombres, les obscurités fulgurantes, les impétueuses et tendres ardeurs des chants et des traités de Saint Jean de la Croix les lui livrent. Sans exiger de son intelligence un effort de méthode dont elle n'est pas incapable, mais qui gênerait son élan. Elle s'y jette comme dans le feu. Elle s'en assimile directement la substance. Prier et prier, aimer et aimer, rien, rien et rien, s'anéantir. L'admirable ouvrage du Père Surin, Les fondements de la vie spirituelle auxquels elle a recours, prêche le même détachement. Elle devait revenir plus tard à la méditation unique des saints livres. Toute sagesse y est incluse, toute vérité, tout amour. Thérèse possédait cette simplicité du regard qui atteint l'esprit par-delà la lettre, du premier coup, sans tâtonnement ni détour. Un mot lui suffira, Jésus. Une image, la Sainte Face. C'est pourquoi Dieu écarte d'elle les confidents, les directeurs. Elle s'avancera de plus en plus seule, de plus en plus simple, de plus en plus nue dans le chemin de la perfection. Qui a cru à votre parole, il est sans éclat, sans beauté. Ce verset d'Isaïe que répète souvent Thérèse résume le mystère auquel elle s'attache et qu'elle méditera, éprouvera 5 ans durant. Si Dieu demeure absent, et si ce n'est que par un tour de force qu'elle rétablit sa présence dans la figure de l'homme de douleur, le monde est toujours là qui ajoute encore à ses peines. Son cœur n'a pas détendu les liens qui le rattachent humainement aux créatures. Thérèse n'oublie pas son père, elle n'oublie pas ses 2 sœurs, Léonie et Céline, qui veillent sur les souvenirs d'autrefois. Après un temps d'essai chez les Clarisses, Léonie, l'effacée, est revenue contre son gré à la maison. Céline, qui a promis de rejoindre Thérèse, a le sentiment de vivre en exil. Le devoir d'État la retient. De tous les écrits de la sainte, je crois bien que les plus touchants sont les lettres qu'elle lui adresse pendant ses premières années de couvent. J'y vois le document le plus direct et le moins apprêté qu'elle ait livré sur l'état de son âme. Elles sont tendres, âpres et sublimes. La littérature n'y a point de part. Elle semble dictée par la nécessité. Thérèse, qui n'a pas grand-chose à dire, à ses mères selon la règle, elle a tant de mal à s'ouvrir, se tourne vers l'ancienne compagne de ses jeux. Même au parloir, ce n'est guère qu'auprès de Céline qu'elle s'épanche, leurs entretiens sont uniquement spirituels. Les grâces pleuvent sur les buissonnets. Céline veut aussi devenir une sainte. Monsieur Martin continue son ascension. À peu près rétabli de sa première attaque, il a pu se permettre un petit voyage. Il paraît un jour au Carmel dans un état d'exaltation singulier. Derrière la grille et le rideau noir, ses 3 filles religieuses, invisibles pour lui, l'écoutent. Il leur laisse entendre, sans rien préciser, les faveurs incroyables qu'il vient de recevoir à Alençon, dans cette église Notre-Dame où Thérèse fut baptisée. Le voici bien payé de ses sacrifices, trop bien. La joie, leur avoue-t-il, m'a arraché cette prière. Mon Dieu, c'en est trop, je suis trop heureux, je ne peux pas comme ça aller au paradis, je veux souffrir quelque chose pour vous. Il ajoute « Je me suis offert ». Monsieur Martin ne souffre plus. Dieu a transmué sa souffrance. Mais ce n'est pas dans l'ordre, et il rappelle Dieu à l'ordre. Pour qui s'est-il offert? Ses filles ne le sauront jamais. À cet aveu, Thérèse dut frémir. Elle dut revoir l'homme voilé auprès de la buanderie. À peu de temps de là, une nouvelle attaque le frappait. Il s'en remit pourtant. Il put conduire Thérèse à l'autel dans sa robe de mariée pour sa prise d'habit le 10 janvier 1889. qu'il dut vivre longtemps ou bientôt mourir, pour la dernière fois, il revoyait son cher visage. La plus belle des fêtes, la plus blanche des fêtes, une vierge de 16 ans qui se donne dans sa pureté au seul époux qui sache la conserver pure. Thérèse la pure, Thérèse la chaste est comme affolée de blancheur. Elle voudrait que tout fût blanc comme son voile et sa couronne. Elle espérait que l'hiver, son ami, elle est née en janvier, lui ferait la grâce de vêtir la terre d'une robe comme la sienne. Elle aimait tant la neige. Mais le temps s'est radouci. Sa petite reine au bras, Monsieur Martin pleurait et rayonnait. Ce fut son triomphe, nous dit Thérèse. Il savait que Céline entrerait aussi au Carmel, que Léonie ne pourrait rester dans le monde. Il avait donc donné tous ses enfants à Dieu. Quel honneur Dieu lui faisait-il en prenant ses épouses dans sa maison? Il ne restait plus qu'à se donner lui-même. Mais il s'était donné. Quand elle disparut dans la clôture, l'évêque, par inadvertance, entonna le Te Deum. Un prêtre lui fit remarquer qu'on ne le chante qu'aux professions. Il ne crut pas devoir interrompre l'hymne de louange. Or, derrière la statue de l'enfant Jésus, que comme d'ordinaire, et plus que d'ordinaire, Thérèse avait ornée de fleurs, elle aperçut le préau tout couvert de neige. Durant la cérémonie virginale, les anges de l'hiver avaient exaucé son désir. Thérèse compare cette journée d'apothéose à celle des rameaux. Pour son père, selon la nature, comme pour son époux céleste, la passion devait suivre le triomphe de près. Tandis qu'elle revêtait la robe brune et le voile blanc des novices, elle entrevoyait la voie douloureuse où l'homme voilé s'engageait. Exactement un mois plus tard, à 2 jours près, Monsieur Martin, frappé une 3e fois et sans rémission aucune, devait quitter les Buissonnets pour une maison de santé. La paralysie générale, on pouvait désormais prononcer le mot, allait ruiner en lui la volonté, la mémoire et l'intelligence, en lui laissant peut-être la conscience de son malheur. C'en était fait. Thérèse pouvait répéter le verset nostalgique de Saint Jean de la Croix, « Les fraîches matinées sont passées. Plus rien n'a espéré sur la terre que la souffrance. » Mais suffira-t-il de se résigner? Non, la résignation est un acquiescement contraint, sans générosité profonde, qui comporte aussi, pour être effective, un certain effort vers l'oubli. À tout le moins, un glissement passif vers un état de paix qui ressemble fort à l'indifférence. Cette sagesse populaire qu'on baptise philosophie est indigne d'une âme forte. Il ne s'agit pas d'oublier, mais d'approfondir au contraire la réalité de l'épreuve que souffre un être cher et qu'on doit souffrir avec lui. Il s'agit d'y adhérer de toute sa force affective, de la vouloir comme Dieu l'a voulu, de l'aimer comme Dieu nous aime quand il daigne nous en faire don. Alors, et alors seulement, elle sera changée en joie, en une joie crucifiante à la mesure même de notre choix. Tous les saints ont porté en eux la coexistence paradoxale, la douleur et la joie, à l'image du Christ lui-même qui connut dans son agonie les derniers supplices d'un homme et les plus hautes extases d'un Dieu. La pensée de Thérèse ne quitte pas son père, ses sœurs attardées dans le monde, ses sœurs recluses au couvent. Mais elle épouse en même temps la volonté apparemment cruelle de son maître, et elle pourra s'écrier « Oh, quel sort digne d'envie !» Les séraphins dans les cieux sont jaloux de notre bonheur. Il faut que notre Père soit bien aimé de Dieu. C'est le martyre qui commence. Entrons dans la lice, offrons nos souffrances, souffrons en paix. En paix, sur ce mot Thérèse explique, qui dit paix ne dit pas joie, ou du moins joie sentie. Mais qu'est-ce qu'une joie qu'on ne sent pas? C'est cependant de cette joie qu'elle devra faire sa nourriture. Elle s'en contente, elle s'en enivre. Elle jouit d'un affreux bonheur artificiel et volontaire qu'une grâce sans douceur et sans saveur soutient. Plongée aux eaux de la tribulation, sans consolation terrestre ni céleste, Thérèse se déclarait frontalement, sincèrement, la plus heureuse des créatures. Elle osera écrire, en revivant ces tristes jours, « Les 3 années de martyre de mon Père me paraissent les plus aimables, les plus fructueuses de notre vie. Je ne les échangerai pas pour les plus sublimes extases. » Le renversement des valeurs est en voie d'accomplissement. Thérèse est forte parce qu'elle renonce à faire usage de sa force, parce qu'elle se sent faible, parce qu'elle se veut faible. Une petite fleur dans la tempête, un petit grain de sable roulé par les flots. Ne se mesurant plus qu'à Dieu, elle prend conscience chaque jour un peu plus de sa faiblesse et de sa petitesse. « C'est encore un bonheur, dit-elle, de porter nos croix faiblement. Si nous les portons, c'est que Dieu nous aide. Moins nous compterons sur notre courage, et plus il nous en prêtera. « mon Père, crie Jésus en croix, pourquoi m'avez-vous abandonné ?» Pour que l'homme en lui fasse place au Dieu qui tire tout de rien, qui relève et qui ressuscite. Thérèse ne quitte plus des yeux l'homme de faiblesse, l'homme de douleur. Comme le voile qui cachait le visage du visiteur mystérieux était figure de celui qui obscurcit l'intelligence de son père, celui-ci se confond pour elle avec le masque de sueur, de larmes et de sang qui couvre la sainte face de Jésus. Monsieur Martin aura été choisi pour recevoir l'empreinte de l'humiliation du Christ et pour en proposer l'image vivante à sa fille. Il est temps qu'elle ajoute un nouveau titre de noblesse à celui qu'elle porte et qu'elle est fière de porter. Elle ne sera plus seulement Thérèse de l'enfant Jésus, mais aussi de la Sainte Face. La mère prieure qui la voit grandir et mûrir, qui sans cesser de la persécuter l'estime et l'aime, c'est la meilleure de ses bonnes, un ange, déclare-t-elle dans le privé. Ne se résiliera pas à son pieux désir. Nous manquons gravement à la mémoire de la sainte en amputant dans nos prières le double nom qu'elle a choisi. Il synthétise le drame de notre salut, de Bethléem et de Nazareth au calvaire. Il unit en Thérèse la perfection de l'innocence à la sublimité de la douleur. N'oublions pas que c'est la croix qui nous ouvre la voie d'enfance. Tristesse du côté du monde, sécheresse du côté de Dieu. Entre un abîme et un désert, elle s'achemine vers le temps de sa profession qui devrait avoir lieu normalement 1 an après la cérémonie de vêture. Elle persiste dans l'obéissance, elle persiste dans l'humilité. Elle persiste dans l'exercice quotidien de la charité fraternelle. Plus elle souffre, plus elle compatit. Comme on s'en aperçoit, on vient à elle. La mère prieure lui envoie, à l'occasion, une novice dans la peine à apaiser et à encourager. Elle a certainement de l'avance sur ses compagnes. Le seul à en douter, c'est monsieur le supérieur. Il veut avoir raison, ce qui est une grande faiblesse. Aussi s'oppose-t-il formellement à ce qu'elle fasse profession au jour fixé. Il exige qu'on prolonge l'épreuve de 8 mois. Sous le coup de cette injustice, Thérèse sent son endurance mollir. Elle attendait beaucoup de cet événement. Elle ne lui attribuait pas une importance exagérée, puisqu'il signifierait que son don était agréé et l'enchaînerait pour toujours. Elle sombre dans le désespoir, elle refoule sa révolte. Or, au cours de son oraison, après une lecture du Père Surin, le Saint-Esprit l'éclaire et elle reconnaît ses torts. Son vif désir de prononcer ses vœux lui paraît mélangé d'un grand amour-propre. Elle y discerne moins le souci de plaire à Jésus que la satisfaction de monter d'un cran, de recevoir confirmation officielle et publique de son mérite. Et aussi la crainte qu'on ne dise d'elle « Vous voyez cette petite sœur qui aspire à la sainteté, elle n'est pas même capable de suivre les autres. » Car en dépit de ses vertus, des sévérités qu'on lui montre, peut-être à cause d'elle, elle a fait des jalouses, n'en doutons pas. En l'accablant, on croit flatter la mère. On abuse de sa douceur. Mais Thérèse en prend son parti. Elle sera encore humiliée, méprisée et raillée. Elle en a l'habitude. Si c'est le bon plaisir de Dieu, Dieu recule sa profession parce qu'elle n'en est pas digne. J'attendrai, lui dit-elle, autant que vous le voudrez. Seulement, je ne pourrai souffrir que par ma faute, mon union avec vous soit différée. Je vais donc mettre tous mes soins à me faire une robe enrichie de diamants et de pierreries de toutes sortes. Quand vous la trouverez assez riche, je suis sûre que rien ne vous empêchera de me prendre pour épouse. » Elle se remet à l'œuvre sans un jour de retard. Elle porte sur ses moindres actions un regard aigu, implacable. Elle se félicite de se trouver encore si imparfaite, d'avoir encore beaucoup à peiner sur son âme, pour l'amender, l'épurer, la cribler. Elle songe aux 3 vœux qu'on exige d'une religieuse. Elle s'aperçoit qu'elle s'y conforme bien mal, spécialement aux vœux de pauvreté. Oh, elle ne possède pas grand-chose, les seuls objets indispensables et autorisés par la règle. Mais elle s'y attache comme à des compagnons. Sa cellule humble et nue est en somme fort habitable. Elle aime à la voir bien rangée, bien nette, et qu'il n'y manque rien. Elle n'a qu'une petite cruche toute simple, mais elle la trouve très jolie, de forme, de matière et de couleur. Quand elle rentre après compli, qu'elle pose sur sa table sa chère petite lampe, elle goûte parfois une heure de véritable paix dans la lecture de « La vive flamme d'amour », des prophètes ou de l'Évangile. Se plaire à ce qu'on a, à ce qu'on voit, à ce qu'on lit, est-ce vraiment la pauvreté? On lui enlève sa jolie petite cruche, tant mieux. On la remplace par une grosse cruche tout ébréchée. C'est mieux encore. Elle se prend d'amour pour les objets les plus laids, les plus incommodes. Un soir, elle ne retrouve pas sa lampe et il faut qu'elle se prive des livres saints. Soit, elle demeurera dans les ténèbres. Elle éprouvera toute une heure la joie de ne rien posséder. Ce ne sera pas tout. Il est tant de façons de s'appauvrir. Par exemple, tenir secret les services qu'on a rendus. Accepter sans se disculper d'être accusé de la faute d'un autre. Quand elle est sûre qu'on ne la voit pas, Thérèse plie et range les manteaux qui traînent. Un petit vase oublié sur une fenêtre se brise et on lui impute à tort cet oubli. Elle baise la terre et promet d'être plus soigneuse. Elle s'attache spécialement, de volonté délibérée, à une sœur converse du noviciat qui a très mauvais caractère. Celle-ci la rebute, lui fait payer cher ses faveurs. Mais Thérèse s'obstine. Sa patience est inlassable. Elle finit par se faire une amie, dévouée et docile, de la cariâtre jeune sœur. C'est dans le même esprit qu'elle s'offre à conduire au réfectoire la vieille sœur Saint-Pierre, une converse aussi, aigrie par ses infirmités. Personne ne s'est proposé et Thérèse elle-même hésite. Plus il y a de répugnance, plus le devoir lui semble impérieux. Ah, c'est toute une cérémonie. Il fallait d'abord remuer le banc d'une certaine manière, puis on aidait la sœur à se lever. On la suivait à petits pas en la soutenant par la ceinture. Au moindre faux pas, elle bougonnait. « Ah, mon Dieu, vous allez trop vite, je vais me briser !» Et si on mettait trop de discrétion, elle se figurait qu'on ne la soutenait plus. « Je me sens pas bien votre main, vous me lâchez. Ah, je disais bien que vous étiez trop jeune pour me conduire. » Au réfectoire Nouvelle Comédie, pour l'asseoir, relever ses manches d'une certaine manière encore. Thérèse s'aperçut un jour qu'elle avait du mal à couper son pain. Elle prit l'habitude de le lui couper. Elle ne la quittait jamais sans lui adresser son plus beau sourire. Or, tout le monde se figure qu'elle sert la vieille sœur infirme par ordre impératif ou par affection d'humilité. Tels sont les diamants qui brilleront sur sa robe nuptiale. Jésus seul les verra. C'est lui d'ailleurs qui les lui a donnés. Ce qui n'empêche pas sa retraite de profession de s'écouler dans une aridité cruelle. Elle s'efforce de s'y plaire et surtout de la justifier. Elle a pris l'habitude de transposer son dénuement en figure et en symbole à la manière du Cantique des Cantiques et des poèmes de Saint Jean de la Croix. Elle a de l'imagination et sans doute l'esprit l'inspire. Mais remarquons-le bien, les dessins qu'elle prête à Dieu, les réponses qu'elle reçoit de lui, c'est de sa foi seule qu'elle les tire, non d'une explicite révélation. Rien de commun avec les dialogues réels entre Sainte Catherine de Sienne et son maître. Qu'on relise ici la lettre admirable qu'elle écrit à sa sœur Agnès de Jésus. Septembre 1890. Ma mère chérie, il faut que votre petite solitaire vous donne l'itinéraire de son voyage. Avant de partir, mon fiancé m'a demandé dans quel pays je voulais voyager, quelle route je désirais suivre. Je lui ai répondu que je n'avais qu'un seul désir, celui de me rendre au sommet de la montagne de l'amour. Aussitôt, des routes nombreuses s'offrirent. Mais il y en avait tant de parfaites que je me vis incapable d'en choisir aucune de mon plein gré. Et notre Seigneur me prit par la main et me fit entrer dans un souterrain où il ne fait ni froid ni chaud, où le soleil ne luit pas, où la pluie et le vent n'ont pas d'accès. Un souterrain où je ne vois rien qu'une clarté à demi voilée. La clarté que répandent autour d'eux les yeux baissés de Jésus. Mon fiancé ne me dit rien, et moi, je ne lui dis rien, sinon que je l'aime plus que moi, et je sens au fond de mon cœur qu'il en est ainsi, car je suis plus à lui qu'à moi. Je ne vois pas que nous avancions vers le but de notre voyage, puisqu'il s'effectue sous terre. Et pourtant, il me semble, sans savoir comment, que nous approchons du sommet de la montagne. Je remercie mon Jésus de me faire marcher dans les ténèbres. j'y suis dans une paix profonde. Volontiers, je consens à rester toute ma vie religieuse dans ce souterrain obscur. Je désire seulement que mes ténèbres obtiennent la lumière aux pécheurs. Je suis heureuse, oui, bien heureuse de n'avoir aucune consolation. J'aurais honte que mon amour ressemblât à celui des fiancés de la terre qui regardent toujours les mains de leurs fiancés pour voir s'ils ne leur apportent pas quelque présent, ou bien leur visage pour y surprendre un sourire d'amour qui les ravit. À tout prix, je veux cueillir la palme d'Agnès. Si ce n'est par le sang, il faut que ce soit par l'amour. Elle dira encore, « Je ne désire pas l'amour sensible. Pourvu qu'il soit sensible à Jésus, cela me suffit. Mystère impénétrable de la sainteté, puisque Jésus ne manifeste rien, d'où lui vient l'assurance que son amour lui est sensible. » La veille du grand jour, comme l'espoir renaît, une furieuse tempête, la plus furieuse de sa vie, fond sur son âme. Elle se trompe. Elle trompe les proches, elle trompe ses supérieurs, elle trompe Dieu en se prétendant appelé. Sa vocation est un leurre, un rêve, une chimère, un mensonge de son orgueil. Il serait sacrilège de s'y obstiner. Qu'elle quitte le couvent et qu'elle retourne dans le monde. Elle se lève soudain, alerte la maîtresse des novices, la supplie de sortir du cœur et lui confesse son tourment. C'est le dernier degré de l'humiliation. La mère maîtresse se contente d'en rire et l'aveu délivre Thérèse de cette embûche du démon. Dès le matin du 8 septembre, apporte-t-elle, je fus inondée d'un fleuve de paix et dans cette paix qui surpasse tout sentiment, je prononçai mes saints vœux. Elle en profite pour demander à Dieu, si c'est sa volonté, tout ce qu'elle a le droit de désirer au monde, et d'abord qu'il accepte son don total, puis le bien du couvent, la paix de Céline, l'entrée de Léonie à la visitation, et dans le moment le plus solennel, la guérison de leur père. Elle ajoute humblement et cruellement, puisque notre mère prieur m'a dit de vous le demander. Ne souhaite-t-elle pas que son père guérisse? Si, mais il s'est immolé lui-même. Doit-elle priver Dieu de son immolation? Ce fut un très beau jour, favorisé d'un temps splendide. Un témoin nous rapporte que pendant la procession, un énorme vol d'hirondelles passa sur le Carmel en rasant de près les murs que certaines religieuses sensibles aux correspondances crurent y voir un signe du ciel. Thérèse aujourd'hui parle en reine. Sait-on ce qu'elle réclame encore de son roi? Qu'il convertisse en un instant la multitude des pécheurs et qu'il vide le purgatoire. Le 24 eut lieu la prise de voile et M. Martin n'y assista pas. Rechute dans la nuit. Jeanne Guérin, l'aînée de ses cousines, se marie. Les prévenances dont elle entoure son mari remplissent Thérèse de jalousie et de honte. Si une femme fait tant pour un époux mortel, que ne devrait pas faire celle qui se fiance à l'immortel époux? Elle rédige alors pour s'amuser et se lier sur le modèle du faire-part de sa cousine une invitation naïve aux noces spirituelles de Jésus et de sœur Thérèse sur la montagne du Carmel. Il faut bien qu'elle se distrait. Enfantillage, si l'on veut. Elle doit avoir l'air heureux, elle doit avoir l'air joyeux. L'épouse du Très-Haut ne saurait préserver un visage sombre. Ce serait avouer qu'elle est maltraitée par l'époux. D'où les fleurettes trop aimable, qui enguirlande, dans l'histoire d'une âme, les aveux les plus déchirants. Notons ici que Dieu, qui, le jour, lui refuse tout, lui accorde la nuit des rêves poétiques. Elle y reprend contact avec la nature qu'elle aime. Elle voit des fleurs, des ruisseaux, des bois. Elle voit la mer et de jolis petits enfants. Elle attrape des papillons et des oiseaux d'une espèce inconnue, digne du paradis terrestre. La cloche de 5 heures brise l'enchantement. Au cœur sombre et glacé, l'oraison à froid recommence. La retraite générale de 1891 lui valut quelque temps de trêve. Elle se méfiait des retraites prêchées. Les mots lui semblaient vains. Sa pensée avait peine à suivre les discours. Elle tendait à se dépouiller même des oraisons d'aimer Dieu. Elle lui paraissait un empêchement à l'amour, un obstacle ou une limite. Il lui fallait à chaque instant surmonter sa gêne, voir son ennui et probablement sa délicatesse. On ne parle pas de ces choses tout haut. Thérèse, en se mortifiant, est devenue de plus en plus secrète. Si l'on juge un prédicateur de retraite sur l'épanouissement et l'approfondissement spirituel qu'il procure à ses auditeurs, le père Alexis Récollet, du couvent de Caen, devait prêcher en accord avec l'Esprit Saint, car dès son premier mot, il dilata l'âme de sœur Thérèse. Celle-ci se sentit comprise, devinée, avant même d'avoir parlé. Pour la première fois de son existence, son âme s'ouvrait à un supérieur. Les secrets conseils du père Alexis, loin de la décevoir, la comblèrent, la délivrèrent. « Il me lança, dit-elle, à pleine voile sur les flots de la confiance et de l'amour qui m'attiraient si fort, mais sur lesquels je n'osais avancer. » Surtout, ce qui la combla d'aise, ce fut d'apprendre que ses fautes ne faisaient pas de peine au bon Dieu. En vérité, de si petites fautes. Elle le sentait obscurément, elle soupçonnait la miséricorde de Dieu de tempérer inlassablement sa justice eu égard à notre néant. Personne, cependant, ne le lui avait dit encore, du moins avec assez d'autorité pour qu'elle y crût. Oh, elle savait bien que Dieu pardonnait tout, mais aux autres, non pas à elle, en raison même de cet amour de préférence dont elle avait reçu plusieurs signes jadis. Elle n'avait plus à craindre Dieu. Quelle révélation pour elle! Tous ses malheurs venaient d'une certaine absence d'abandon. Ah, l'aimer assez pour ne plus le craindre! Je suis d'une nature telle, avoue Thérèse, que la crainte me fait reculer. Avec l'amour, non seulement j'avance, je vole. Elle volera très haut. L'anneau de fer de sa chaîne est rompu. Mais elle ignore que l'amour peut être plus douloureux que la crainte.